Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Cris de joie et applaudissements au Parlement zimbabwéen et concert de klaxons dans les rues d'Harare pour saluer la démission de Robert Mugabe. Bonsoir Nathalie Barge pour vous accompagner dans cette édition du 21 novembre 2017. Plus de 50 morts dans un attentat suicide à Moubi au Nigeria. 15 blessés et un mort dans des affrontements entre jeunes et policiers à Conakry. Le gouvernement tchadien dément les allégations de corruption de la justice américaine contre le président Idriss Déby Itno. Une frappe américaine en Somalie a tué plus de 100 combattants Chebab. Après le journal La Minute Éco, les sports. Abe Yemang de retour avec Dortmund en Ligue des Champions. Une page de l'histoire se tourne au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe a remis sa démission après 37 ans de pouvoir, a annoncé le président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire du Parlement à Harare, qui débattait de sa destitution. Jacques Aristide.
Cris de joie et applaudissements au Parlement zimbabwéen, les députés n'ont certainement pas caché leur sentiment à l'annonce surprise de la démission de Robert Mugabe ce mardi, annonce faite par le président de l'Assemblée Jacob Mudenda. Son départ intervient alors que les députés et les sénateurs étaient réunis en congrès extraordinaire pour débattre en urgence d'une motion de destitution de Mugabe, qui était jusque-là le plus vieux chef d'État de la planète à 93 ans. La rue est également liée. Plusieurs centaines de manifestants réunis devant le Parlement dans la capitale zimbabwéenne. De nombreux Zimbabwéens se disaient épuisés par le régime autoritaire de Mugabe et par la crise économique interminable. Dans sa lettre de démission, Robert Mugabe écrit remettre formellement sa démission avec effet immédiat depuis le coup de force de l'armée il y a une semaine, provoqué par la révocation du vice-président Emmerson Mnangagwa. Le président Mugabe avait perdu un à un ses soutiens. Robert Mugabe, héros de la guerre d'indépendance, a dirigé son pays d'une main de fer. Il est accusé d'avoir muselé l'opposition et ruiné l'économie du pays pendant son long règne de pratiquement 40 ans.
L'ambassade américaine à Harare a salué la démission de Robert Mugabe. Les États-Unis demandent instamment le respect de la primauté du droit et des pratiques démocratiques établies, quels que soient les arrangements à court terme que le gouvernement peut établir. La voie à suivre doit conduire à des élections libres, équitables et inclusives, indique un communiqué. Pour une première analyse sur la démission du président zimbabwéen, Raissa Girondin a joint John Stewart, vice-président du Forum des ONG pour la défense des droits de l'homme au Zimbabwe.
Oui, il y a beaucoup de bruit, les gens sont sur les rues, il y a une célébration pour qu'il quitte, parce que depuis un certain temps, on attendait que le Parlement qui a commencé à faire le processus de le renvoyer, maintenant a suspendu sa session parce que le président du Parlement a lu une lettre qu'il a reçue de Mugabe qu'il va quitter la présidence du pays. Et donc, il y a une célébration qui commence, il y a des bruits un peu partout.
Mais qu'en sera-t-il, justement, de la transition?
En fait, pour le moment, il est probable que le président du Parlement sera le président intérimaire, M. Jacob Mudenda. C'est le processus qui est indiqué dans la Constitution, c'est que quand le président démissionne, le président du Parlement prend le pouvoir intérimaire. Mais il est indiqué que le parti qui a nommé le président, en fait, le parti dont l'ancien président a appartenu, et donc c'est le parti ZANU-PF, a le pouvoir de nommer un de ses membres comme président intérimaire juste aux élections prochaines.
Le militant des droits humains au Zimbabwe, John Stewart. Retrouvez toutes les dernières infos en images et vidéos sur notre site internet voaafrique.com. Au Nigeria, un attentat suicide a fait au moins 50 morts dans une mosquée ce matin. L'attaque est attribuée à Boko Haram. Blanche Sanou.
L'explosion s'est produite durant les prières du matin à la mosquée de Madina à Moubi, ville frontalière du Cameroun. En effet, le kamikaze s'est mêlé aux fidèles pour entrer dans la mosquée et a déclenché ses explosifs durant les prières, a précisé le porte-parole de la police de l'Adamawa, Othman Aboubakar. Selon ses responsables, au moins 50 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans cet attentat qui n'a pas été revendiqué mais porte la marque de Boko Haram. Aboubakar Soulé, qui habite près de la mosquée, a raconté qu'il venait juste de rentrer chez lui quand il a entendu la bombe exploser. « J'étais là durant les opérations de secours et 40 personnes sont mortes sur place et plusieurs autres ont été amenées à l'hôpital avec des blessures graves et mortelles », a-t-il souligné. De nombreux blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la région pour être soignés en urgence, selon les différentes sources qui n'ont pas pu en préciser le nombre. C'est l'attentat le plus meurtrier perpétré dans la région du Nord-Est depuis une embuscade tendue en juillet contre un convoi pétrolier qui avait fait 70 morts.
Une frappe américaine en Somalie a tué plus de 100 combattants Shebab dans un camp d'entraînement, a annoncé le commandement américain pour l'Afrique. Le bombardement a eu lieu à 200 km au nord-ouest de Mogadiscio. Les frappes américaines sont quasi quotidiennes depuis quelques semaines. Un adolescent guinéen, le deuxième en 24 heures, a été tué à Conakry lors d'affrontements avec les forces de l'ordre en marge de manifestations dénonçant la situation dans l'éducation. Une quinzaine de personnes ont également été blessées au lendemain du décès d'un autre jeune de 17 ans tué par balle lors d'une manifestation. Ces incidents violents ont éclaté dans plusieurs quartiers. Le gouvernement tchadien a réagi aux allégations sur le président Idriss Déby Itno, soupçonné par la justice américaine d'avoir reçu des pots de vin dans une affaire de droit pétrolier. Face à cette énième allégation mensongère, le gouvernement de la République du Tchad tient à apporter un démenti formel à cette honteuse affabulation, indique un communiqué. Hier, l'ancien ministre sénégalais Cheikh Tidiane Gadjo et le responsable d'une ONG internationale, le Chipping Patrick Ho, ont été inculpés par la justice américaine dans une affaire de corruption de hauts responsables au Tchad et en Ouganda. Nous y reviendrons dans les dossiers d'actualité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a vanté les succès militaires du président syrien Bachar al-Assad, qu'il a reçu au moment où, selon lui, la guerre menée par Damas et l'armée russe touche à sa fin. Plus de 98% du territoire syrien se trouve sous contrôle des forces gouvernementales syriennes. Les terroristes ont encore des foyers de résistance, mais ils s'éteignent vite, insistait le président russe en recevant son homologue tchèque Milos Zeman. Monsieur Poutine multiplie les contacts à quelques jours de pourparler à Genève le 28 novembre visant à mettre fin à la guerre. L'administration de Donald Trump a supprimé le statut spécial permettant aux Haïtiens en situation illégale de rester sur le sol américain et de pouvoir travailler. Cette mesure a été instaurée en 2010 à la suite du tremblement de terre qui avait détruit Haïti. Eric Manirakiza.
Quelque 58 700 Haïtiens bénéficient de ce statut de protection temporaire appelé TPS. Le ministère américain de la Sécurité intérieure a fixé la fin de ce programme au 22 juillet 2019. Jusque-là, les Haïtiens pouvaient rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa et travailler légalement. Désormais, ils n'ont qu'un délai de grâce de 18 mois pour organiser leur départ. Ceci ouvre la porte à leur expulsion. D'après Hélène Duke, ministre intérimaire à la Sécurité intérieure, ils pourront également réclamer un statut migratoire légal en cas d'éligibilité. Le gouvernement de Port-au-Prince est prié de préparer le retour et la réintégration de ses citoyens. Cette décision a été signifiée récemment au ministre haïtien des Affaires étrangères Antonio Rodrigue et à l'ambassadeur haïtien aux États-Unis Paul Altidor. L'administration américaine estime que les conditions économiques et sécuritaires en Haïti ne nécessitent plus que ses ressortissants restent sur le sol des États-Unis. En revanche, Steve Forrester, dans l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, parlait d'une honte et regrette une mauvaise mesure pour les États-Unis et qui va déstabiliser Haïti.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution sur la traite d'êtres humains dans les pays en conflit. Un premier texte avait été adopté le 20 décembre sur les flux financiers liés au trafic d'êtres humains et qui appelait le secrétaire général à renforcer la coordination dans ce domaine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Solange Niamoulissa.
La puissante entreprise étatique minière congolaise Gécamines a accusé ses partenaires étrangers de voler la République démocratique du Congo après avoir été elle-même mise en cause dans deux rapports par des ONG. Le président du conseil d'administration Albert Yuma, un proche du président Joseph Kabila, a déclaré que leurs partenaires les ont trompés et volés depuis 15 ans. Il a demandé au cabinet Ernst & Young de repenser l'organisation de la Gécamines pour mieux contrôler le partenariat étranger. Selon un rapport du ministère des Ressources minérales, l'avenir du secteur minier du Botswana est en péril car 8 mines ont été fermées depuis 2010 et plus de 7000 emplois sont perdus. Selon le ministre des Mines, Sadiq Kebonang, certaines mines sont toujours en liquidation alors que d'autres ont été rouvertes. Il a déclaré que la perte d'emplois due aux fermetures était un fardeau pour l'économie du pays qui vit une situation très difficile. Le Botswana est tributaire du secteur minier dont il tire l'essentiel de ses revenus. Le Bénin a gagné une place dans le classement de l'édition 2017 de l'indice Mont Ibrahim de la gouvernance en Afrique, occupant ainsi le 14e rang dans le lot de pays bien gouvernés sur les 54 États d'Afrique. Le Bénin doit sa nouvelle place.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Suspension à craindre pour un joueur sénégalais en Angleterre.
Oui, l'attaquant d'Everton Oumarnias risque une suspension rétroactive de 2 matchs pour avoir plongé et obtenu un pénalty contre Crystal Palace. C'était samedi, match nul 2-2 en Première Ligue. C'est ce qu'annonce la fédération anglaise. S'il est reconnu coupable, le Sénégalais, âgé de 27 ans, deviendrait le premier joueur suspendu rétroactivement en Première Ligue.
Avant-dernière journée ce mardi en Ligue des Champions en Europe.
Le groupe E, qui est l'une des rares poules où aucune équipe ne s'est détachée, Liverpool en tête avec 8 points, n'a pas un déplacement facile sur la pelouse de son dauphin, Séville 7 points. Pendant ce temps, le Spartak Moscou 5 points est en embuscade à l'heure de recevoir la modeste équipe slovène de Maribor. Manchester City, impressionnant en championnat d'Angleterre, est déjà qualifié dans sa poule F avant d'accueillir Feyenoord. Le Shakhtar Donetsk et Naples, qui s'affrontent ce mardi, vont donc se disputer la deuxième place du groupe. Monaco, en grand danger, n'a plus son destin entre les mains. Le club de la principauté doit absolument battre Leipzig dans le groupe G et espérer un faux pas de Porto sur la pelouse du Besiktas. Et puis Dortmund, dans une situation plus que périlleuse dans la poule H. Tottenham et le Real Madrid sont presque déjà qualifiés. C'est simple, si les Madrilènes s'imposent sur la pelouse de l'Apoel Nicosie, ce qui est semblable, les Allemands devront oublier la Ligue des Champions cette saison.
Le football côté justice.
Oui, 3 anciens responsables du foot mondial qui ont tous plaidé coupables de corruption devant la justice américaine ont été suspendus à vie de toute activité liée au football par la justice interne de la FIFA. Richard Lai, ancien président de la Fédération de football de Guam, Julio Rocha, ex-président de la Fédération du Nicaragua, et Rafael Esquivel, ex-président de la Fédération vénézuélienne, font partie des 42 anciens responsables du football et des sociétés de marketing mises en examen par la justice américaine dans le cadre du FIFA Gate, ce vaste scandale de corruption et dont plusieurs membres sont actuellement jugés à New York.
On termine par la NBA, championnat de basket nord-américain.
Et de 16, Boston a enchaîné une 16e victoire consécutive à Dallas, 110-102 après prolongation, grâce au récital de Kyrie Irving, 47 points. Cleveland a confirmé son retour en forme avec une nette victoire à Détroit, 116-88. Par ailleurs, Oklahoma City a concédé une nouvelle défaite, cette fois à la Nouvelle-Orléans, 114-107. San Antonio, victoire à domicile contre Atlanta, 96-85. Au contraire, ça va mal pour les Clippers de Los Angeles, 9e défaite d'affilée, cette fois sur le parquet des Knicks de New York, 85-107.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Au Zimbabwe, la démission du président Robert Mugabe, après 37 ans de pouvoir, offre à son pays de nouvelles alternatives. Mais elle place Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile pour son caractère impitoyable, en pole position pour accéder aux instances suprêmes. Quelle lecture faire de cette révolution de palais ? Faut-il s'attendre réellement à un avenir meilleur pour le Zimbabwe ? Eric Manirakiza a joint en Afrique du Sud le professeur André Thomashausen de l'Institut du droit international et comparé à l'UNISA.
Ça, ce sera la grande question, la question que se posent les organisations de la société civile, la presse, les intellectuels, parce que, évidemment, les grands généraux, ils faisaient toujours partie du clan, de l'élite très privilégiée du pouvoir. Mais je pense que, spécialement M. Mnangagwa, qui est un politicien avec beaucoup d'expérience, va reconnaître la nécessité d'un renouvellement du mandat du peuple, la nécessité d'une inclusion démocratique, c'est-à-dire, en termes concrets, la nécessité d'élections, d'élections libres, parce que les dernières élections au Zimbabwe n'étaient pas du tout libres, pour que le gouvernement, à partir de maintenant, même déjà pendant la transition, pourrait avoir l'autorité et la légitimité d'adopter des réformes et de mener le pays en avant. Ce moment-ci, le pays est dans une stagnation complète. Il manque des nourritures, il manque des médicaments, il manque même l'essence et le gazole. La situation est très très fragile, c'est-à-dire il faut une ouverture, il faut établir la base pour une nouvelle confiance internationale dans l'avenir du Zimbabwe.
Mais Emmerson Mnangagwa est également comptable de la situation actuelle parce qu'il co-gérait avec Mugabe.
Absolument. C'est lui qui est le grand coupable de la falsification et la dégénération des élections de 2008. Mais c'est un technocrate du pouvoir. C'est un homme qui a une réputation d'être un réaliste, surtout très intelligent. Je soupçonne aussi qu'il a l'appui de la Chine populaire, qui est le plus grand investisseur au Zimbabwe, et ça lui permettra de renégocier les conditions financières et économiques dans les prochains 6 mois, ce qui sera essentiel pour maintenir la paix et l'ordre public, parce que le pays est dans une crise très très sévère.
Robert Mugabe, le vétéran de la lutte pour l'indépendance, un homme bien respecté dans l'OTAN, qui part par la petite porte.
C'est un peu un choc, c'est un choc pour la gauche, pour beaucoup de gens en Afrique. Mugabe était un symbole, un idole, d'un des grands chefs de la libération, de la décolonisation en Afrique. Mais la vérité, c'est qu'il n'y aura personne qui nierait que dans ces derniers temps, Mugabe a démontré des signes très très clairs de sénilité. Il a essayé de pratiquer une espèce de révolution, de transformation du style de maoïsme, du style de Mao Zedong, mais il a échoué. Il n'a pas pu créer un pays fort et industrialisé, mais il a détruit pratiquement toutes les bases de l'économie du Zimbabwe et il a perdu aussi l'unité nationale. Le pays est terriblement divisé, juste très proche d'une guerre civile. Alors, Mnangagwa, un technicien et les futurs élus, ils auront au moins besoin d'une dizaine d'années pour remettre le Zimbabwe sur un parcours de succès et de progrès.
Le professeur André Thomashausen, expert en droit constitutionnel, était joint en Afrique du Sud.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, l'opinion publique a appris avec surprise l'inculpation de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, par la justice américaine dans une affaire de corruption de hauts responsables africains. Candidat malheureux à la présidentielle de 2012, il était jusque-là très apprécié par ses compatriotes. Seydina Abagay a tendu son micro à des Sénégalais pour des réactions.
Largement repris par la presse, l'annonce de l'inculpation de Cheikh Tidiane Gadio est assez surprenante pour le Sénégalais lambda. Pour Khadim Gaye, un jeune d'une vingtaine d'années, rien ne présageait cela.
Il n'incarnait pas quelqu'un de louche durant son magistère. Bon, On n'a pas entendu des problèmes de César concernant cet homme. C'était quelqu'un qui boostait la diplomatie sénégalaise parce que le Sénégal avait beaucoup de partenaires.
Ministre des Affaires étrangères de 2000 à 2009, Cheikh Tidiane Gadio est vu comme une référence au Sénégal, comme l'indique Omar Boun Khattab Ndour, étudiant à l'Université de Dakar.
Cela me surprend. Vu la personnalité de l'homme, telle que nous l'avons connue durant les années où il a eu à gérer la diplomatie sénégalaise sous le régime de Wade, il avait, durant toute cette période, donné une très belle impression en termes de comportement, d'attitude, mais aussi au niveau du travail. Nous avons une très belle impression, ce qui fait certainement la grandeur de notre surprise par rapport à l'annonce de son arrestation.
Kalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale et collègue de Cheikh Tidiane Gadio au sein du gouvernement, affirme que ce dernier était exemplaire. Pour lui, il faut se montrer prudent car cette affaire n'a pas encore livré tous ses secrets.
C'est une grosse surprise, d'autant plus Gadio, c'est un ami, je veux dire, un collègue dans le gouvernement. Et puis un ministre qui a fait la fierté du Sénégal pendant une dizaine d'années. Mais il vient d'être élu député. Puis un grand panafricaniste, responsable également d'un parti politique, qui avait un discours formateur pour la jeunesse africaine et pour tout le monde. Je pense qu'il est présumé innocent. Nous n'avons pas sa version, nous avons la version de ceux qui l'ont inculpé à travers la presse.
Président du mouvement panafricain et citoyen, Cheikh Tidiane Gadio a été élu député lors des élections législatives de juillet 2017. Son inculpation par la justice américaine est une grande surprise pour beaucoup de Sénégalais. Certains de ses collègues députés projettent déjà de mettre en place des actions afin de le soutenir. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Guinée, les cours dans les établissements primaires et secondaires sont perturbés depuis plus d'une semaine. Une grève déclenchée par un groupe de syndicalistes de l'éducation est partiellement suivie dans la capitale où des élèves sont descendus dans les rues pour protester contre l'absence des enseignants dans les salles de classe. On parle d'un nouveau mort, un jeune, et d'une quinzaine de blessés dans les manifestations aujourd'hui. Zakaria Camara à Conakry nous en dit plus.
C'est une grève sauvage, des mots du ministre guinéen de la Justice pour dénoncer le caractère illégal et illégitime de mouvement. Ceux qui sont signataires de l'avis de grève sont suspendus de toute activité syndicale par leur organisation, précise à son tour le ministre de l'Éducation nationale. Après une semaine de grève, le bilan est inacceptable, a dit Ibrahima Khalil Konaté, ministre de l'Éducation nationale.
La grève est en train de faire des ravages. Je vous informe, c'est une jeune fille de 10 ans a été violée par un enseignant dans la salle de classe. Quand on a venu jeter des cailloux, dans ce mouvement, les enfants ont fui. Il a récupéré la petite pour le faire rentrer dans la salle. Il l'a enfermé et il a fait quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Il y a une fille, élève à l'école Afrikof de Sangoya. Elle a perdu un œil par projectile ayant entraîné l'explosion du globe oculaire. Il y a un élève qui est mort à Dabomba. Je pense que ça commence à être de trop.
Des manifestations violentes sont signalées à même endroit de la capitale. Des jeunes qui, pour ériger des barricades ou brûler des pneus sur la chaussée, provoquant ainsi une perturbation de la circulation. Face à la situation, Bourayma Kondé, ministre de l'administration du territoire qui parle d'incitation à la révolte, appelle les administrateurs territoriaux à plus de vigilance.
Les écoles sont toutes dans une certaine circonscription. Faites en sorte que la délation n'est pas raison du réalisme pour lequel vous êtes là pour défendre les intérêts de vos collectivités. Mon appel est celui d'un contrôle de proximité, d'une sécurisation de proximité. C'est vrai que l'État ne va pas croiser les bras pour que des individus défendant ce qu'ils appellent leurs intérêts contre ceux du peuple de Guinée exposent nos enfants.
Quatre enseignants ont été libérés après une courte interpellation. Ces grévistes accusent les autorités administratives d'être responsables des conséquences de la grève. Amadou Massa Doumbouya et ses collègues sont décidés à aller jusqu'au bout de leurs revendications.
Jusqu'à l'heure où nous sommes, aucune porte n'est ouverte pour les négociations. Les gens restent radicale sur leur point, pas essayer de prendre ce mouvement syndical-là au sérieux. Depuis 2007, au temps de général Alassane Conté, un régime militaire nous donne une valeur monétaire d'indice à 1030. Un président civil vient, il nous retire ça. Il faudrait que les gens sachent que ce n'est pas une augmentation. Et c'est pourquoi nous sommes radicaux par rapport à ce point-là.
Des manifestations ont été encore signalées ce matin dans la capitale, avec un blessé par balle. La victime a été touchée à la tête, selon plusieurs témoins. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les États-Unis ont décidé de fermer la représentation de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, à Washington. Une décision très mal accueillie par les Palestiniens qui ont décidé de geler les rencontres avec les officiels américains après cette annonce de l'administration Trump. Comment explique-t-on cette fermeture ? John Lyndon a posé la question à Frédéric Ancel, qui enseigne les relations internationales à Sciences Po Rennes.
Le président Trump, même si sur beaucoup de sujets dit à peu près n'importe quoi, il a quand même quelques constantes. Et parmi ces constantes, et on l'a vu depuis la visite de Netanyahou à Washington le 15 février dernier, parmi les constantes, c'est non seulement le maintien de la très grande proximité avec Israël, même si encore une fois les attendus et les fondements de cette position chez Trump ne sont pas très cohérents, c'est quand même le maintien de cette position très favorable à Israël d'une part, et d'autre part une véritable gêne dans l'accord, et là on a quelque chose de plus cohérent tout de même du point de vue américain, dans l'accord de conciliation nationale, on va l'appeler comme ça, entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Bon, le Hamas est considéré par les États-Unis, comme par Israël d'ailleurs, comme un groupe terroriste. Et de ce point de vue-là, la représentation palestinienne aux États-Unis ne pouvait pas, évidemment, ne pas souffrir de la position traditionnelle américaine qui est la suivante, non au Hamas, pas de négociation et pas de reconnaissance de ce groupe terroriste.
Et du coup, les Palestiniens ont décidé d'annuler les rencontres avec les autorités américaines. Est-ce que ça arrange les choses ?
Non, ça n'arrange rien, mais est-ce qu'ils pouvaient faire autrement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport de force n'est clairement pas en faveur des Palestiniens, c'est même le moins qu'on puisse dire. D'abord parce que les États-Unis demeurent la première puissance mondiale, y compris au Moyen-Orient. Et d'autre part, parce que dans la région, les soutiens traditionnels de la cause palestinienne, notamment les soutiens arabes, ne s'y intéressent pas. Donc Mahmoud Abbas se retrouve seul. Alors, il ne pourrait pas faire autrement que de se retirer de ces discussions, mais en même temps, ça ne lui rendra absolument aucun service parce que les Américains se fichent complètement que les Palestiniens acceptent de les rencontrer ou pas.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme implication au niveau de la Palestine sur cette décision ?
Au quotidien, je ne pense pas qu'il y aura une quelconque implication. Je veux dire par là que les États-Unis n'ont pas décidé de prendre des sanctions lourdes de type notamment économique ou bancaire.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut ramener les deux acteurs à un dialogue plus apaisé ?
Ça serait un changement de gouvernement en Israël, ce serait un changement de présidence aux États-Unis. Si le Hamas ressort une nouvelle fois d'une coalition avec l'autorité palestinienne, peut-être qu'on retrouvera une négociation entre les deux parties, mais j'y crois assez peu en réalité.
Frédéric Ancel est spécialiste du Moyen-Orient. Il enseigne à l'Institut d'études politiques de Rennes en France.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique, restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats, RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Joselle Morissin. La présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.